Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 du podcast avec une invitée que j'avais très envie de recevoir ici depuis un bon moment. Il s'agit de Justine Savy, elle a 19 ans, elle est autrice et elle prodigue comme moi des conseils pour les auteurs en herbe, notamment sur Instagram où elle est très active et où je la suis depuis bien longtemps. Dans cet épisode, on va bien sûr parler de nos parcours respectifs et de notre vision de l'écriture, de nos routines, de nos trucs et astuces. Et elle vous parlera également de son parcours universitaire qui est assez innovant, vous allez le voir. Je vous laisse tout de suite avec cet épisode qui est assez long. On a beaucoup apprécié cet échange toutes les deux et parlé pendant une bonne heure. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Justine pour ce podcast du dimanche matin. Mais pour une fois, je n'enregistre pas avec les invités 3 heures avant, donc c'est plutôt cool. alors du coup, je pense qu'en vrai, dans nos communautés respectives, il y en a qui te connaissent dans la mienne, mais je pense que la plupart te connaissent pas parce qu'on n'a pas vraiment la même communauté. J'ai un peu vu ça sur Instagram. Donc du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ?
Oui. Alors, je m'appelle Justine Savy, j'ai 19 ans. J'écris depuis toute petite et là actuellement je suis en étude d'écriture, pardon. Je suis en étude d'écriture et puis je suis en phase de publier mon second roman dans l'année, là, bientôt.
Ok, donc voilà. En fait ça fait combien de temps concrètement que t'écris vraiment sérieusement, on va dire ?
Vraiment sérieusement, je pense que c'était quand j'avais 12 ans.
Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, t'es comme ça, moi, t'es une écrivain bien longtemps.
C'est ça.
Ok, donc t'étais une enfant ado écrivain, quoi. C'est pas ça. Venu sur le tard comme certains.
Non, c'est ça. En fait, j'ai commencé à 8 ans, mais c'est devenu vraiment très sérieux à 12 ans.
Ok, non, parce que t'es hyper jeune en vrai. Enfin, je dis ça, j'ai l'impression d'être très très vieille du coup, mais je t'avoue que je vais avoir 25 ans bientôt et j'ai un peu mal en ce moment. Donc du coup, je me.
C'est pas vieux 25 ans. De la jeunesse. C'est encore très jeune 25 ans.
Bon, en tout cas, c'est cool. Moi aussi, j'étais une ado écrivain. En CM2, j'écrivais les rédactions tout seul dans la classe, tu vois. Toi-même, tu sais, quand on est un peu introverti. Voilà. Mais du coup, cette dernière année, t'as écrit Hémophélia, c'est ça ?
C'est ça. Alors, je l'ai commencé en 2015.
Ah ouais, ok.
Ça fait très 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 longtemps, mais en fait, j'ai eu une grosse période de page blanche pendant un an et demi, et j'ai totalement délaissé le roman. Pour moi, c'était fini, je ne l'écrirai plus jamais. Et je l'ai repris l'année dernière, et donc là, je l'ai terminé.
Ok. Voilà. Et du coup, entre-temps, tu avais un projet ou pas du tout ?
Entre-temps, j'essayais de me rassurer en me disant que je serai libraire et puis ça ira. Et puis si j'écris plus, tant pis. J'avais vraiment laissé tomber. Hein. C'était ouais. Très difficile. Quoi. Mais très, très vite, je me suis rendu compte que je me mentais à moi-même. Et que ce qui était vraiment en moi, ce qui faisait partie de ma vie, c'était l'écriture. Quoi. Donc la librairie... Je l'ai un peu virée.
Ah ouais, carrément. T'as vraiment changé ton projet de vie, quoi.
C'est ça. En fait, la librairie était vraiment là pour me rassurer et pour rassurer mes proches, pour leur dire que j'aurai un métier et que ça ira. Mais en fait, maintenant, quand j'y réfléchis, j'ai envie de faire l'écriture, enfin d'écrire, et puis d'organiser ma vie autour de ça. Donc, j'ai plein de projets. Voilà, il n'y a pas que l'écriture de romans, il y a plein d'autres choses. Mais ouais, c'est l'écriture que je veux faire dans ma vie.
Ok. Et du coup, ce roman-là, c'est le deuxième ?
C'est ça. J'ai auto-édité
un... Donc, c'est-à-dire qu'il y en a eu un autre ?
Ouais. C'est ça. J'ai auto-édité un roman en 2016. Mais là, aujourd'hui, j'en fais plus la promotion parce que j'étais très, très jeune. Et j'en suis plus très, très fière aujourd'hui. Donc...
Tu te reconnais plus trop dans c'est ce ça. Genre d'écriture ?
C'est ça. Donc, deuxième roman, c'était... mais premier dont
c'était
je vais faire
la promotion. C'était un peu le même genre ? Ou pas du tout ?
Pas tellement, parce que Hémophélia, c'est plus pour les adolescents
okay.
ou jeunes adultes, tandis que mon premier roman, Sans souvenir, il y a beaucoup plus d'adultes qui m'avaient lu à l'époque, puisque c'est une romance, mais plus autour d'adultes, quoi. Okay. Donc, c'est pas vraiment le même style.
D'accord. Et du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur Hémophélia ? Qu'est-ce que c'est ? Quel contexte ? Pourquoi tu as commencé à l'écrire, finalement ? Et pourquoi, surtout, tu as continué à l'écrire ? Parce que ça veut dire qu'il y a... quand même quelque chose qui t'a poussé à recommencer, tu vois.
J'ai eu l'idée de ce roman hein, quand j'avais 14 ans, donc c'est quand même une grosse, grosse partie de ma vie. C'est une histoire entre deux amis, en fait, qui se connaissent depuis très, très longtemps, mais qui ont une relation uniquement basée sur des discussions qu'ils avaient d'un balcon à l'autre, parce qu'ils sont voisins. Donc en fait, ils se voyaient jamais à l'extérieur, c'était vraiment chaque soir, on se voit et puis on discute. Et un jour, Elia, donc mon personnage principal, va balancer un sac sur le balcon de son voisin et va lui dire « Toi et moi, on part en voyage. » Voilà. Okay. J'ai eu cette idée... Merci. J'ai eu cette idée voilà, à 14 ans, quand j'étais en Corse. Littéralement, le personnage s'est imposé à moi, en fait. Elle m'a dit tu vas écrire mon histoire, et puis si tu le fais pas, ça risque de mal se passer. Donc, en fait, j'y pensais tout le temps.
La nana menacée par ses bouquins.
Exactement.
Tout va bien.
Exactement. Donc, en fait, j'ai écrit le premier jet. J'ai mis 3 ans, je crois, à l'écrire. 2-3 ans à l'écrire.
Ouais.
Et en fait, à l'époque, donc, je venais d'auto-éditer mon premier roman, et j'étais plus dans l'idée de le proposer à une maison d'édition, celui-ci. Parce okay. que j'avais besoin de me sentir légitime ben, grâce aux maisons d'édition. Ouais. Et s'en est suivi, je me suis mis énormément de pression par rapport à ça, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste. Et donc, j'avais besoin que le roman soit parfait et ben, que tout soit parfait. Et en fait, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à ne plus pouvoir écrire du tout. Donc, c'est de là que vient mon blocage
d'écriture.
Ouais, le blocage. Voilà, c'est ça. Et donc, pendant 1 an et demi, j'y ai plus touché. Et au bout d'1 an et demi, je me suis
énorme.
C'était horrible. Vraiment,
c'est énorme, pensé... 1 an et demi, parce que moi, j'ai bloqué quelques mois et après, pour s'y remettre, c'est tellement dur que du coup...
C'est ça. Au bout d'1 an et demi, je me suis dit, bon, c'est bon, j'abandonne ce roman. C'est plus la peine, ça me fait plus de mal qu'autre chose, donc je le laisse tomber. C'était encore plus douloureux, hein, qu'on se le dise. Et en fait, entre-temps, j'ai commencé mes études d'écriture, donc je suis en licence d'écriture.
Ok.
Et donc, j'ai recommencé petit à petit à écrire, puisqu'on avait des consignes de texte et qu'on devait, on devait écrire une fois par semaine.
Obligée, quoi.
C'est ça. Donc, en fait, c'était un petit peu le coup de pied aux fesses pour me forcer à reprendre. Alors, c'était très bien. Hein. Et petit à petit, je me suis dit, mais limite, je m'insultais, en fait. C'est, mais pourquoi tu as arrêté ce livre? Parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie de ma vie, puisque j'ai grandi avec, en quelque sorte. J'avais 14 ans, là, j'en ai 19. Et puis, je me suis dit, un jour, je vais reprendre le plan. Je vais reprendre mes fiches personnages, je vais reprendre tout ce que j'avais préparé, et puis je vais réessayer.
Et... Ah, donc de repartir depuis le début, quoi.
C'est ça. Et donc, en fait, alors d'abord, j'ai relu le premier jet. Je me suis arraché les yeux. Parce que maintenant que j'ai mon expérience de la licence d'écriture, je vois les choses autrement, j'ai un nouveau style d'écriture, et je sais ce qui va pas dans un texte, normalement, enfin en tout cas j'essaye,
ouais.
Et j'ai lu le truc et je me suis dit mais non, ça va pas du tout, autant l'histoire ça va, mais alors l'écriture ça ne va pas du tout, alors j'ai tout jeté.
Oh là 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 là.
Et j'ai tout recommencé.
3 ans de boulot, genre.
C'est ça.
Ouais, tu voulais même pas essayer de, dans ces cas-là, tu t'es dit que la réécriture ça suffirait pas, quoi, qu'il fallait...
C'est ça. J'ai essayé de me faire une bêta lecture à moi-même, et en fait tout était surligné en rouge, avec écrit en majuscule, ça va pas du tout, c'est n'importe quoi. Alors je me suis dit, mais en fait, à ce moment-là, autant tout réécrire, quoi.
Ouais. Bah, la limite, c'est peut-être moins compliqué que de reprendre chaque phrase en disant, ah non, mais il y a rien qui va, c'est une catastrophe.
C'est ça. Puis ça faisait moi, tellement
ça me
longtemps.
Déprime, hein, donc, Ouais. Ouais, c'est ça. Ça faisait tellement longtemps. C'est que le début, il datait d'il y a 3 ans, forcément.
C'est ça.
Ok, donc t'as tout recommencé, du coup.
J'ai tout recommencé. Sans pitié.
Bah, purée. T'as du courage. Et donc aujourd'hui, t'en es où de ce bouquin-là?
Alors aujourd'hui, j'ai terminé le deuxième premier jet, du coup, en décembre.
Ouais, j'ai terminé... vu que t'étais en bêta lecture.
C'est ça, j'ai terminé la première réécriture il y a quelques jours, et je l'ai envoyé à des bêta lectrices, donc je reçois petit à petit leur retour. Ça me fait très peur, et ça me fait à la fois très
bon.
Plaisir. Oui, elles me font beaucoup de retours très très intéressants pour améliorer des points de l'intrigue. Mais dans l'ensemble, elles ont beaucoup aimé, donc ça me rassure énormément, ça me fait très très plaisir. Et puis je crois un peu plus en ce roman que j'ai abandonné à tort.
Bon, non, mais c'est top. En tout cas, il y a eu un peu un happy ending sur ce roman, ça fait plaisir.
Ça me fait très plaisir, oui. J'avais un peu peur d'avoir fait tout ça pour rien, quoi, parce que c'est quand même une histoire qui me tient vachement à cœur.
Bah, c'est clair, hein.
Voilà.
Puis c'est tellement de boulot. Mais d'ailleurs, c'est marrant, tu parles des bêta lecteurs, et justement, j'en parlais il n'y a pas très longtemps sur Instagram avec des lecteurs. Et je trouve ça hyper compliqué de trouver des bons bêta lecteurs. Alors, toi, dans ta communauté, t'as l'air d'en avoir pas mal. Enfin, des gens, tu vois, qui ont une plume assez affinée pour pouvoir te donner des retours constructifs. Parce que le problème, c'est que, je sais pas si t'as déjà fait faire une bêta lecture par des plus proches que ça, ou, tu vois. Et c'est compliqué parce qu'en fait, souvent ils disent, oh, bah, j'ai beaucoup aimé. Sauf que, bah, en fait, ça suffit pas parce que pour réécrire, c'est hyper compliqué derrière. C'est parce ça. Que, bon, j'ai bien aimé, ça veut rien dire, tu vois. C'est un peu compliqué parce que je trouve, trouver des gens qui sont assez, enfin, critique, mais pas dans le sens, voilà, on va tout critiquer, mais juste dire, bah voilà, tu vois, ce personnage-là, je trouve que ça va pas assez loin, ou des choses comme ça, et moi, j'ai un peu de mal à trouver des bêta-lecteurs qui soient pas trop proches de moi pour, que je connaisse, tu vois, mais pas trop proches pour pas avoir un œil trop subjectif, et puis à la fois qui soient assez lecteurs, ou en tout cas un tout petit peu écrivain et tout, pour essayer de voir les choses que moi, j'ai pas vues avant, tu vois. Je trouve ça assez compliqué.
Alors déjà, je sais que j'ai deux bêta-lectrices qui passeront en tout dernier. C'est des amis et camarades de classe, donc dans ma licence d'écriture. Donc je leur fais confiance à 100% parce que je sais qu'elles auront le même œil que moi. Parce que c'est un regard que je peux pas avoir sur mon propre texte, mais que j'arrive à avoir sur d'autres. Donc je sais qu'elles réussiront à l'avoir sur le mien. Et là, actuellement, je l'ai envoyé à 4, 5, 6 personnes. Donc 4 amis qui sont très proches de moi. Et en fait... Donc elles m'ont aidé à repérer les coquilles, et c'était plus des retours de lectrices que de bêta-lectrices, dans le sens où ça m'a beaucoup rassurée. Je leur ai envoyé en fait au fil de mon écriture, et c'était des retours, c'était pas vraiment de la bêta-lecture, c'était surtout j'ai beaucoup aimé, ce personnage je l'aime beaucoup, et donc ça m'aidait en fait à continuer, parce que quand je suis sortie de cette page blanche, j'avais pas du tout confiance en moi. Et donc le fait de recevoir des retours simplement de lectrices, ça aide beaucoup, mine de rien. Bon, alors, ça aide pas à m'améliorer, mais ça aide à prendre confiance en ce que je fais et à me dire que, OK, il y a possibilité pour que ce roman plaise.
Ouais, et puis ça t'aide à te dire que t'es sur le bon chemin aussi. Mais je te rejoins complètement là-dessus, parce que moi aussi, j'ai une amie à qui j'envoie toujours les chapitres. En fait, ils sont sur un drive, tu vois, c'est encore mieux que ça. Genre, j'ai même pas lui envoyer, elle a toujours au fur et à mesure. Je dis juste, genre, chapitre 27, terminé. Dans ces cas-là, je me dis, tu vois, c'est pareil, ça, il y a des fois où juste ça va me poser question, genre, elle me dit, j'ai hâte de savoir comment, genre, ce personnage va réagir. Et dans ma tête, je me dis, mais attends, j'ai pas du tout prévu de le faire réagir. Genre, en fait, faudrait peut-être qu'il réagisse à quelque chose, tu vois. Donc, au moins, ça me permet de rester sur le bon chemin. Et comme tu dis, je trouve que niveau motivation, ça, c'est top. Bon, je pense qu'il ne faut pas non plus faire ça avec 15 personnes, parce que du coup, dans ces cas-là, tu as un peu trop d'attente derrière. Oui. Mais ouais, avec 2-3, je trouve ça pas mal, parce qu'au final, comme tu dis, c'est des retours de lecteurs, et ça fait plaisir, parce que parfois, justement, comme moi, tu vois, tu te dis, mince, je ne suis peut-être pas sur le bon chemin, là, du coup. Et puis, il y a des fois où, finalement, tu vois que ton suspense, il marche, ou que... Donc ça, c'est cool. Ça donne envie d'aller plus loin, c'est que pour toi aussi, c'est motivant, quoi.
C'est ça. C'est exactement ça. Puis c'est surtout ces 4 personnes avec lesquelles je discute tous les jours, et on est toutes les 4 autrices en fait. Et donc tous les jours, on s'envoie des petits paragraphes, on se demande est-ce que ça va, est-ce que j'ai bien écrit, est-ce qu'il y a un problème. Donc on se fait des retours en fait constamment.
Ah oui.
Et là, leur retour, même si c'était pas de la bêta lecture proprement parlée, ça m'a beaucoup aidée. À prendre confiance, tout ça. Et les 2 autres bêta lectrices sont autrices également. Et elles m'ont vraiment fait de la bêta-lecture, c'est-à-dire qu'elles ont commenté les paragraphes. Donc, il y a Flore de J'écris parfois sur Instagram, je ne sais pas du tout si tu la connais.
Voilà. Oui.
à qui je fais vraiment beaucoup confiance aussi, et qui m'a fait des retours très, très intéressants sur mon intrigue, parce que ça fait tellement longtemps que je connais mes personnages qu'il y a des choses qui me paraissent vraiment évidentes et que du coup, je n'ai pas mis dans le roman. Et donc, elle m'a vraiment fait remarquer plein de choses. Elle m'a dit, mais ça, j'ai pas compris. Ça, j'ai pas compris du tout. Ça, qu'est-ce que tu voulais dire ? Donc, c'est très, très intéressant pour ça.
Ouais, et dans ces cas-là, tu dis, ah, mais ouais. Enfin,
c'est ça. Je me suis dit, c'était pas évident, en fait. Je vais le mettre. Et j'ai Margot.auteur aussi sur Instagram. Je sais pas si tu la connais. Voilà, pareil. Elle est très critique envers elle-même. Donc, je sais qu'elle va l'être... Envers moi, et d'ailleurs elle a commencé à me faire quelques retours, et pareil, c'était super intéressant, et je sais que c'est des personnes qui vont m'aider à pousser le roman encore plus loin, quoi.
Ouais.
Voilà.
Est-ce que tu pourrais nous en dire plus du coup sur ta licence là, parce que alors ça, mais moi je suis dégoûtée, hein, je vais te le dire, parce que, du coup on a un peu d'écart, tu vois, en âge, et ceux qui me connaissent savent que je suis passée par un parcours d'études assez impressionnant, hein, faut le dire. j'ai fait vraiment beaucoup de choses différentes. Quand j'étais petite, j'avais mis profession plus tard, je voudrais être écrivain, sauf que bah, en fait, moi, il n'y avait pas d'école d'écrivain. Sauf que là, tu es en train de me dire, et je le savais, tu vois, que maintenant, ça existe. Il y a une licence qui fait ça, tu vois. Et je suis dégoûtée parce que, bah, encore une fois, j'arrive toujours après la guerre. Donc, bah, bien sûr, les études sont finies, j'ai monté ma boîte, voilà, je ne vais pas retourner faire mes études. Mais globalement, s'il y avait un petit cursus comme ça à faire en cours du soir, je le ferais, tu vois. Donc, je suis vraiment dégoûtée, mais super contente que ça puisse permettre justement à d'autres comme toi de pouvoir faire ça. Parce que franchement, je vais dire à mon époque, mais c'était il n'y a pas si longtemps, mais vraiment, ça n'existait pas. Et j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus. C'est un peu perso, du coup, mais je pense que ça intéressera d'autres gens qui sont là-dedans. Et je voudrais savoir un peu, bah, tu vois, déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à aller là? Parce que ça veut dire que ça existait, mais que tu en avais entendu parler. Est-ce que tu recherchais un cursus comme ça, ou est-ce que tu es un peu tombée dessus en te disant « mais ouais, en fait, c'est évident, je veux faire ça ou... ».
Alors, à la base, je suis dans une famille de scientifiques, donc avec beaucoup de personnes qui ont fait médecine, pharmacie, infirmière, tout ça. Donc, à l'époque, j'écrivais beaucoup, beaucoup au lycée, mais je partais pour faire médecine.
Ah oui, rien à voir.
Rien à voir. Et en fait, arrivée en S, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire que je ne me retrouvais pas du tout dans ces cours, je ne me sentais pas à ma place, c'était atroce. J'avais l'impression qu'on m'avait balancée dans un cours d'allemand, alors qu'à la base, je faisais espagnol, tu vois.
Oui, je le vois très bien.
Donc du coup, je ne comprenais pas du tout. J'étais pas bien, quoi. C'est, moralement, c'est dur de se rendre compte que, qu'on n'est pas du tout au bon endroit, c'est ça.
Ouais.
Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je voulais... Donc, mon chéri actuel, il devait aller faire ses études à Aix-en-Provence. Et donc, j'avais envie d'aller faire mes études à Aix-en-Provence pour le rejoindre. Donc, j'ai cherché des écoles de médecine à Aix. Mais ça n'existe pas. Et par curiosité, je me suis baladée sur le site de l'Université de Lettres. Et je suis tombée sur un petit parcours. C'est écrit en tout petit. création littéraire et cinématographique. J'ai lu le descriptif. Et ça a été la révélation, en fait. Je me suis dit, mais OK, médecine, c'est fini, c'est pas du tout pour moi, mais ça a été très vite éjecté. Hein. C'est médecine, c'est pas du tout pour moi, et c'est ça que je veux faire. Alors, ça a été très difficile pour mes parents, parce que du jour au lendemain, c'était plus médecine, c'était je veux écrire, et je veux aller en L, et ensuite, je veux faire des études de lettres. Donc, ça a été un peu le choc dans la famille. Toute ma famille a été au courant en une journée. Et puis... ouais, ça a été un petit peu le choc, mais au final, ça a été très facilement accepté. Enfin, mes parents m'ont tout de suite très très vite soutenue parce qu'ils ont compris qu'en fait c'était ce qui me faisait vibrer, quoi. Je l'écris depuis toute petite. Ouais. Depuis toute petite, je leur dis papa, maman, plus tard, je vais être écrivain. La condition pour ça, c'est que je fasse des études. Donc, quoi de mieux que de trouver des études d'écriture.
Bah, c'est clair.
Donc, on est allé faire toutes les portes ouvertes. On est allé voir le responsable de la licence. On allait se renseigner et. Et puis, me voilà là-dedans, quoi.
Un nouveau monde s'offre à toi.
C'est exactement ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une licence... Donc, c'est la seule licence en France qui fait ça.
Ouais, parce qu'on m'avait dit qu'on avait une aussi à Saint-Denis, à Paris 8. Il me semble qu'ils ont ouvert un truc comme ça, un cursus, je ne sais pas, c'est 3 ou 5 ans.
Je crois qu'il y a des masters à Paris.
Ah ouais, peut-être que c'est un master, ouais.
Mais licence, il me semble qu'on... Oula, pardon. Licence, il me semble qu'on est vraiment la seule à faire ça. Et il faut savoir que c'est un parcours très, 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 très spécifique. Et du coup, la première année, on est mêlé à des étudiants en lettres, en cinéma et en musicologie.
Bon, c'est cool. Au moins, tu t'ouvres un peu des portes.
C'est sûr. Sauf que le budget des lettres est très, très, très faible par rapport à celui de la musicologie. Donc, en fait, la première année, je me suis retrouvée à faire de la chorale et à étudier. En fait, j'avais un examen où il fallait que j'apprenne à repérer les musiques précisément dans le temps, la bonne année, tout ça. Donc, rien à voir avec l'écriture.
Ah oui, c'est pas du tout ce que tu voulais, quoi.
On était là, on se disait, mais qu'est-ce que c'est pourquoi on fait ça alors qu'on est censé écrire? C'est à partir du deuxième semestre, en fait, où on passe vraiment aux choses sérieuses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à savoir. Si ça intéresse des personnes de faire ce genre de cursus, c'est important de savoir qu'on commence pas tout de suite par écrire, on commence par faire de la musique. Voilà.
c'est original.
J'aurais bien aimé le savoir parce que c'est vrai que j'ai été assez surprise.
Un peu déroutant.
Voilà. Mais sinon, ouais, on, le deuxième semestre, on avait un atelier de 4 heures d'écriture par semaine. Et on devait écrire toutes les semaines. Et on a appris, en l'espace de 4 mois, on a appris mais énormément de choses. Et en l'espace de 4 mois, j'ai totalement revu ma manière de penser l'écriture et d'écrire, quoi.
Ah ouais. Et dans ces cas-là, qui sont les... c'est qui vous intervenant ? C'est plutôt des universitaires ou...
Alors, on a... Le responsable de la licence, c'est Jean-Marc Caranta. Alors, je ne sais pas si tu le connais.
Ça me dit rien du
c'est,
tout
bon,
ça,
alors, mais... c'est un écrivain et un maître conférencier.
Ok.
Donc voilà, c'est lui qui nous a géré, entre guillemets, le second semestre. Alors, autour de ces ateliers d'écriture, on avait quand même des cours de lettres. Parce que okay. C'est partie du parcours
oui, non, mais...
et c'est super intéressant aussi, selon les cours, hein, mais c'est super intéressant de voir l'écriture bah, sous ce prisme-là, en fait, parce qu'on étudiait la poétique du roman, donc comment se crée un roman. Donc c'est très intéressant. Et au fur et à mesure des semestres, donc là, je viens de terminer ma deuxième année, on a eu des intervenants, donc des auteurs, des autrices. On a eu Lorraine Malka, par exemple. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une journaliste et une autrice. Okay. En fait, voilà, c'est des intervenants extérieurs
okay. Bon, bah.
qui l'invitent en fait, pour nous faire cours. Quoi. Voilà.
Mais du coup, ils ont quand même... c'est vrai que c'est des gens qui ont quand même de l'expérience. Et...
oui.
Ça vous apporte une autre vision de l'écriture, peut-être.
C'est ça. C'est ça. Alors, le seul point négatif, c'est que c'est quand même vachement élitiste.
Ouais.
Parce que bon, pour moi, qui veut faire de l'auto-édition, je suis un petit peu vadérée trop satanas, tu vois.
Ouais. Voilà. Ça m'étonne pas trop.
C'est ça. Ils ont des maisons d'écriture, mais attention, c'est réservé qu'aux personnes qui s'éditent. Et puis, les consignes d'écriture, c'est attention, plus tard, quand vous voudrez vous éditer, il faudra suivre des consignes. Alors que ça ne correspond pas forcément à tout le monde, quoi. C'est vachement c'est pas... élitiste.
Ouais, c'est pas vraiment la vision de l'écriture telle qu'on en a, nous, apparemment.
C'est ça.
De notre génération, en tout cas, je pense que c'est en train de changer.
Oui.
Et mais bon, pour le mieux, après, je pense que... Bah, après, moi, je sais pas, toi, t'es plutôt team auto-édition, du coup.
Oui.
Ouais. Oui. Bah, moi, j'ai auto-édité, mais maintenant, je suis plutôt... Enfin, en fait, j'ai une vision, tu vois, un peu... bah, peut-être, justement, un peu utopiste de l'édition traditionnelle. Je pense que c'est un peu le cas que je veux peut-être... Bah, je commence déjà à descendre un petit peu sur Terre, tu vois. Mais ce que je trouve intéressant, c'est... bah, par exemple, pour mon roman jeunesse, tu vois, j'ai trouvé elle m'a trouvé, une éditrice, une toute petite maison d'édition. Et en fait, bah, alors on est d'accord que c'est pas Hachette ou Pocket Jeunesse, tu vois, mais déjà je trouve que la condition des auteurs est extrêmement bien respectée, ce qui est quand même bah, globalement pas le cas partout du tout. On sait qu'en France c'est un peu la galère. Donc du coup, tu vois, rien que ça, ça me dit bon, bah, déjà je m'engage pas dans une relation qui est pas saine et surtout pas équilibrée, quoi. Mais c'est surtout que je trouve, tu vois, ce que je trouve intéressant dans l'édition traditionnelle, c'est d'avoir une vraie relation avec l'éditeur et de se dire, bah voilà, là, comment on pourrait améliorer le truc pour que ce soit bah, parfait, enfin, en tout cas, le plus proche de ce qu'on voulait. Voilà, donc après, c'est un boulot, je trouve, qu'on n'a pas en tant que, quand on s'auto-édite. Et pour l'avoir fait, bah, même si tu fais appel, tu vois, à plein de collaborateurs pour que ce soit le plus parfait possible et tout, bah, t'as vraiment un boulot qui est où t'es seul aux commandes, quoi. Donc, bon, c'est bien parce que du coup, tu fais bien ce que tu veux de ton bouquin. Mais je trouve que derrière, il y a peut-être une vision, comme tu disais, tu vois, un œil extérieur à avoir. Et je sais pas si juste une bêta lecture, ça me suffirait, en fait, pour faire ça. Je parle pour un roman, hein, parce que j'ai édité des nouvelles, tu vois,
oui.
Sur lesquelles c'était des textes assez courts et je savais que c'était assez percutant. Donc bon, je prenais pas trop de risques sur ça. Mais c'est vrai qu'un roman entier, moi, je sais pas si je me lancerais là-dedans. Mais bon, je te dis ça, je pense que c'est clairement pas figé. Mais c'est vrai que l'édition, j'ai l'impression que l'édition traditionnelle bah, séduit de moins en moins les jeunes auteurs. Je parle jeunes, genre même les trentenaires, tu vois. Et qu'aujourd'hui, bah, ils ont compris que déjà, ils se faisaient avoir financièrement. Et que bah, c'est pour des gens qui écrivent de manière professionnelle, il y en a quand même 270 000. Enfin, auteurs, illustrateurs et tout, tu vois. C'est, ouais. Dans l'édition traditionnelle, j'ai l'impression qu'on se fait avoir dans tous les cas. Mais bah, comme je te dis, il suffit de trouver le bon éditeur qui respecte ça, tu vois, qui respecte les pourcentages qui sont décents, quoi. Mais j'ai l'impression quand même, ouais, que c'est un peu générationnel. Et même, tu vois, quand nous, on traîne un peu dans Instagram et tout, bah, je me rends compte que les gens, il y a vachement d'auto-édition parce que, bah, tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup parce qu'il y a beaucoup, alors je ne parle pas forcément... voilà, des gens comme nous qui veulent en faire leur métier, vraiment. Mais dans les auteurs en herbe, en gros, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens quand même qui rêvent d'avoir écrit un livre et pas d'écrire un livre, tu vois. Donc, du coup, il y a une nuance un peu spéciale, mais je me dis, tu vois, c'est plutôt, voilà, j'ai publié. Je trouve que ça enlève quelque chose à l'auto-édition, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas hyper bien vu par tout le monde.
Oui, oui, je suis totalement d'accord. Bah, pour te donner un exemple, mon premier roman, en fait, je l'ai auto-édité parce que je voulais voir mon livre dans mes mains.
Ouais.
Voilà. Donc, la conséquence, c'est qu'en fait, le livre, la mise en page n'est pas du tout professionnelle. Il reste des fautes. C'est aussi pour ça, en fait, que je ne veux plus du tout le mettre en vente, parce que ça représente plus du tout ma vision de l'auto-édition, ce que je suis aujourd'hui, tout ça. Donc, voilà, c'est une partie de mon passé. et puis, j'envisage potentiellement de le rééditer, mais de faire une vraie bonne édition.
Ouais.
Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai remarqué aussi que dans l'auto-édition, il y avait deux catégories, c'est très large, mais il y en a vraiment plein. Mais je vais dire deux catégories. Il y a les gens qui veulent avoir leur livre, même trois catégories en fait. Les gens qui veulent avoir leur livre, les gens qui... et d'ailleurs, j'en ai eu beaucoup qui sont venus sur mon compte pour ça, parce qu'on me demande pourquoi tu t'auto-édites, c'est un choix par dépit. Voilà, beaucoup qui considèrent ça comme un choix par dépit,
ouais.
Parce qu'ils n'arrivent pas à s'éditer, donc bon, on passe par l'auto-édition, tant pis. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui veulent faire un beau livre, mais être leur propre éditeur, en fait. Et c'est vraiment mon cas, et d'ailleurs, j'ai un projet qui est en train de petit à petit voir le jour avec... justement, deux de mes bêta-lectrices, on est en train de monter une agence / atelier, en fait, pour accompagner les auteurs et les autrices vers un beau livre sans passer par l'édition traditionnelle. C'est-à-dire qu'on serait, en fait, l'intermédiaire entre plein de professionnels pour aider les auteurs et les autrices, justement, à s'auto-éditer, mais à faire quelque chose de professionnel et qui dénigre pas, en fait, la vision qu'on peut avoir de l'auto-édition avec le fait que ce soit un choix par dépit, le fait qu'il y ait encore plein de fautes, le fait que ce soit les couvertures sont pas jolies,
ouais.
Ce genre de choses.
Donc, dans ces cas-là, c'est plutôt de leur dire de faire appel à, je sais pas, un graphiste, à des gens comme ça.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. Nous, on est trois, là. Donc, on va commencer à proposer des ateliers d'écriture, déjà. On va faire des formations en ligne. On va faire de la bêta-lecture, de la correction.
Okay.
Donc voilà, et en fait on va aiguiller vers des illustrateurs, des illustratrices, des graphistes, des personnes qui les aideront à mettre en page. Voilà, en fait pour pas, certes on gère tout seul, mais on a le droit aussi de s'accompagner de professionnels, comme si en fait on était une réelle maison d'édition avec plein de professionnels autour pour faire un bon livre et bien s'accompagner, en fait.
Ouais.
Voilà.
Oui, c'est complètement possible. Enfin, c'est pas... Voilà. Faut juste... je pense qu'il faut aussi que les gens comprennent, enfin, ceux, tu vois, plutôt de la première catégorie qui veulent juste avoir un bouquin, qui comprennent que un beau livre et un bon livre, ça, il faut un peu d'investissement, tu vois, que ce soit financier ou même de temps, de ce que tu veux. Tout le monde n'est pas graphiste, quoi. Tout le monde ne fait pas une super couverture et tout le monde n'est pas correcteur non plus.
Exact.
Et donc, du coup, ce projet-là, c'est plutôt un projet qui est quand même business ou c'est pas du tout...
Oui, business.
Ouais.
C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que le principal dans ma vie, ce sera l'écriture, mais autour de ça, je vais monter différents projets.
C'est ça, je voulais revenir sur ça, du coup, parce que sur ce point-là, on est un peu dans le même bain, et Margot aussi, d'ailleurs, sur le fait, tu vois, moi, j'ai le blog et le podcast depuis, je dirais, 2 ans. Donc ça remonte un peu quand même. Et c'est, tu vois, dès que j'ai commencé un peu à baigner vraiment dans l'écriture et tout, bon, même si ça remonte à très longtemps, tu vois, mais un peu plus sérieusement, on va dire, je me suis dit, moi, il y a plein de gens qui viennent me poser des questions, et je peux pas répondre à tout le monde en individuel, enfin, c'est pas possible. Donc du coup, je vais faire un blog, puis à l'époque, j'ai monté ça sur WordPress, et j'ai fait un blog pour, chaque semaine, je leur faisais un article, tu vois, sur une thématique, hein. Souvent, ça partait d'une question, hein, toute simple. Et puis, il y a 2 ans, je me suis dit, en fait, le podcast, c'est en train de monter. Moi, j'adore en écouter et tout. Donc, je me suis dit que j'allais lancer ça. Et c'est marrant parce que, tu vois, maintenant, toi, t'es dans le truc. Je vois plein de gens qui sont à fond là-dedans. Donc, je me dis, c'est marrant, tu vois. Oui. Ça commence à prendre. Mais ça fait hyper plaisir parce que, tu vois, le podcast, il marche vraiment bien. Et c'est un des points d'entrée les plus importants avec les personnes qui me suivent un peu partout. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, personnellement, je suis en train de faire, tu vois, toi, t'es vraiment dans, pour le coup, t'as la chance de faire des études là-dedans et du coup, d'avoir un côté business qui soit dans ce milieu-là, tu vois. Moi, je ne fais pas du tout ça à la base. Je fais de la transformation digitale d'entreprise, donc c'est pas du tout ça. Mais tu vois, je me rends compte, par exemple, sur des réseaux comme LinkedIn et tout, que les deux sont en train de se recouper. Je suis en train de monter aussi un projet, tu vois, un autre projet business côté écriture, parce que je me rends compte qu'en fait, il y a vraiment quelque chose à faire. Et tu vas me dire ce que tu en penses, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus, mais je me disais que le plus compliqué, en fait, quand on écrit, et au final, on y a déjà un peu répondu avec les lecteurs à qui t'envoies, tu vois, tes chapitres régulièrement. Je trouve que le plus compliqué, c'est de rester motivé sur son bouquin, et surtout d'aller au bout, quoi. Parce que le nombre de trucs qu'on a commencé et qu'on n'a jamais fini, voilà, ça se compte plus, à mon avis.
Exact.
Donc, moi, c'est vraiment un des points bloquants où les gens me disent, mais attends, en gros, c'est, tu vois, les personnes se disent, j'en parlais un peu dans le dernier épisode, mais se disent, l'écriture, c'est du talent, quoi. Sauf qu'en fait, l'écriture, c'est un tout petit peu de talent et beaucoup du reste. Enfin, moi, je trouve que, tu vois, il y a beaucoup, tu vois, comme tu disais, d'organisation, de travail, de déconstruction des croyances déjà, et puis de la vision qu'on a de l'écriture, en fonction de ce que les lecteurs te disent, au final tu vas déconstruire tout ton bouquin, ou comme toi tu vas tout recommencer. Donc c'est pour ça, tu vois, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, que ce soit de votre côté. Je trouve ça hyper bien de pouvoir compter sur une agence ou quelle que soit la forme que ça prend, mais sur des gens comme vous qui ont déjà l'expérience de l'auto-édition, etc., pour essayer d'amener quelque chose de bien. Et je pense que Samantha Bailly l'a fait un peu avec son bouquin, tu sais, La Marelle. Quand elle l'a auto-édité, ça a été un cataclysme dans le monde de l'édition. Alors qu'en fait, son bouquin, il est génial. Et en plus, ça a été super bien fait et tout. Elle s'est entourée de bonnes personnes. Et au final, on voit que ça marche, quoi. Donc déjà, rien que tout ça, c'est une super pub pour vous. Et c'est chouette. Donc je pense que après, tu vois, ce que moi je veux monter, c'est pas vraiment sur l'auto-édition. C'est un peu dur de trouver le bon mot, tu vois, parce qu'accompagnement, ça va pas trop, et coaching, ça fait un peu gros aussi, tu vois. Donc, c'est pas trop ce que je veux. Mais dans l'idée, c'est plutôt ça, quelque chose d'accompagnant, quelque chose de, tu vois, un peu comme du. Pour moi, je le prends un peu comme du développement personnel. Des gens qui se disent, moi j'ai envie, encore plus pendant le confinement, là. On l'a vu un peu, genre, les gens ont envie d'investir sur eux-mêmes, tu vois, de se dire, en fait, il n'y a pas que mon boulot dans ma vie, et moi je rêve d'écrire un livre, tu vois. Je me dis si ça peut faire émerger des passions, on ne sait jamais. Donc, finalement, on est assez complémentaires, tu vois.
Oui. Oui.
Mais du coup, dans quel contexte, toi, tu avais lancé ta chaîne YouTube, ton compte Instagram, le podcast et tout? C'était il y a combien de temps, ça?
Alors, la chaîne YouTube, je l'ai lancée en octobre et je l'ai un petit peu beaucoup délaissée depuis.
Ouais.
Parce qu'en fait, moi, j'ai une envie par rapport à l'écriture, c'est de partager. Parce que j'aime pas garder ça pour moi. En fait, toute ma vie, je l'ai un peu gardé pour moi, puisque j'ai une famille qui n'est pas du tout là-dedans. Mes parents n'aiment pas vraiment lire. Mon père, il a fait médecine, maintenant il est dans l'informatique, tout ça. Donc, je pouvais pas vraiment partager, c'est-à-dire que je pouvais partager, mais c'est pas pareil.
Ouais.
Ils étaient contents, ils étaient enthousiastes, mais c'était pas vraiment, c'est pas vraiment le même genre de discussion que je peux avoir avec eux que ce que je peux avoir aujourd'hui sur Instagram. Donc mon compte Instagram, j'ai lancé il y a très très longtemps, je m'en souviens même plus. C'était quand j'étais encore sur Wattpad à l'époque, donc c'est il y a un bon moment. La chaîne YouTube, donc j'ai lancé en octobre parce que j'avais envie de partager autour de ça. Voilà. Sauf que je suis quelqu'un qui a très très peu confiance en soi. J'ai très peu confiance en moi. Et l'image que je me renvoyais quand je faisais les montages, tout ça, ne me plaisait pas du tout. Je me reconnaissais pas. Alors, je reste naturelle, hein, je change pas ma façon d'être devant la caméra. Mais je sais pas, je me voyais pas vraiment continuer à publier ça. Alors, au début, je le faisais parce que je me disais, ça ira mieux avec le temps. Et au final, petit à petit, donc là, je recommence petit à petit à apprivoiser la chaîne. Mais petit à petit, je me suis dit, ça me correspond pas, ça me plaît pas. Et j'ai découvert les podcasts, que je connaissais pas du tout.
Ah ouais, t'étais pas une amatrice de podcasts?
En fait, je connaissais le terme, mais j'en avais jamais, jamais, jamais écouté. Et par curiosité, j'ai commencé à en écouter. Alors, rien à voir avec l'écriture, j'écoutais Il était un crime, qui raconte des... J'adore, moi aussi. Donc j'écoutais ça, j'écoutais un petit peu des trucs de développement personnel, tout ça. J'ai découvert le podcast de Christelle Lebailly sur l'écriture. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est si je veux partager sans avoir à renvoyer une image physique de moi, c'est le podcast le mieux. Et d'ailleurs, c'est le truc, j'ai pensé au podcast et je me suis dit, voilà, c'est ça, ça a été une évidence.
Ouais, moi aussi, c'était un peu la même problématique, tu vois.
C'est ça. Alors, ça ne m'empêche pas de continuer la chaîne. Hein. J'ai plein de sujets que j'aimerais aborder sur YouTube. Mais c'est vrai que le podcast est vraiment l'endroit dans lequel je me sens le mieux. Et j'ai eu la chance, du coup, par rapport à mes cours d'écriture, d'avoir un atelier chaîne YouTube podcast. Donc, avec Lorraine Malka, où on a eu 3 jours pour monter le projet et enregistrer un premier épisode ou tourner une première vidéo. Donc, en fait, ça m'a forcé à lancer le truc. Et je suis très, très reconnaissante envers Lorraine Malka et mon prof d'avoir organisé ça, parce que c'est vrai que je pense que je n'aurais jamais eu le cran de me lancer. Et ça a précipité les choses. Et voilà, aujourd'hui, je suis lancée et je m'éclate, quoi.
Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression quand même, quand on voit un peu... Bah moi, ton Insta, il est tout le temps sur mon fil d'actualité, donc je ne sais pas comment tu fais. mais tu vois, par exemple, je me suis dit, bah là, tu t'es quand même lancée dans les IGTV, tu vois.
Oui.
Donc, c'est vrai que tu as quand même ce petit truc avec la vidéo qui t'appelle, tu vois.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, l'IGTV, c'est pas vraiment pareil parce que c'est plus court, déjà.
Ouais.
Et je sais pas, j'ai un bon feeling.
C'est pas le même format, quoi.
C'est ça, c'est pas le même format. Je pense que la position de la... Je sais pas comment expliquer ça, mais la position de la caméra joue beaucoup puisque c'est en format paysage. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais je me sens mieux dans... Bah, par exemple, je me sens mieux dans les IGTV que sur YouTube.
Ouais. Ouais. Je pense que chacun son format, quoi, tu vois.
Oui,
moi,
oui.
C'est vrai que, bah, comme toi, j'ai eu un peu la chance. J'avais fait une licence en médiaculture et communication. Et là-dedans, bah, c'était à la Cato à Lille. Et on avait la chance d'avoir déjà une fac magnifique. Et en plus, dedans, on avait un studio de radio et un studio de télé. Donc, je n'étais pas une très bonne présentatrice télé, hein, qu'on se le dise. Mais par contre, quand on a commencé à faire les cours de radio... en gros, le but, c'était que chaque semaine, on allait enregistrer, on était en demi-groupe, tu vois, et il fallait qu'on enregistre quelque chose avec notre équipe, et j'étais toujours la nana qui faisait des chroniques littéraires, donc je prenais un bouquin, et puis bah, voilà, j'en parlais un peu, et là, mes profs m'ont dit, mais attends, il faut absolument que tu fasses de la radio, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses, et moi, je me suis dit, non, mais j'ai pas du tout envie de faire la radio, moi, j'ai pas du tout envie de faire ça dans ma vie, quoi, donc sur le principe, pourquoi pas, puis en fait, en me réécoutant après, je me suis dit, bah, c'est vrai que par rapport aux autres, je suis pas si mauvaise, et donc en fait, je pense que, tu vois, j'ai pas fait de radio, mais qu'au final, bah, comme tu dis, ça m'a servi, parce que quand j'ai voulu lancer le podcast, je me suis dit, bah, juste, je me suis pas dit, oh là là, non, mais j'y arriverai jamais et tout. Je me suis dit, bah, vas-y, je tente le coup. Et puis, en fait, tout de suite, les retours, ils ont été hyper bons. Et donc, du coup, bah, comme pour l'écriture, ça m'a permis de continuer. C'est vrai que je trouve ça hyper chouette. Et je trouve que cette vague un peu de création de contenu autour de l'écriture, je trouve que c'est hyper positif. Déjà, nous, ça nous permet un peu de prendre du recul. Et puis pour les autres, je trouve ça top parce que derrière, bah, tu vois, tu peux avoir bah, ta vision, ma vision, bah, la vision de Margot qui fait aussi des vidéos que je suis.
Oui, et elle a commencé à faire un podcast aussi d'ailleurs.
Ouais, j'ai vu ça.
Depuis que j'ai pris connaissance des podcasts, j'arrive presque plus à regarder des vidéos YouTube. Je suis accro aux podcasts. c'est ne serait-ce que dans ma création déjà, je suis beaucoup plus à fond dans ma création de podcasts, mais en plus, j'écoute que ça, quoi. Et puis c'est plus intimiste parce que c'est directement dans tes oreilles en fait.
Ouais, donc, ouais. C'est vrai aussi.
Quand je suis dans les transports, quand je vais au travail, parce que je suis salariée aussi en plus de tout ça. Quand je vais au travail, quand je fais ma vaisselle, quand je suis sur mon canapé en train de rien faire pour une fois.
Ouais.
Ben voilà, c'est les podcasts, quoi.
J'ai l'impression quand même que dans les podcasts, il y a un contenu qui me ressemble un peu plus et qui est surtout bah, extrêmement varié, quoi. Comme tu dis, moi, j'écoute Christophe Ondelat pour m'endormir pour les crimes. Mais derrière, bah, tu vois, il y a des trucs comme, je sais pas, Grand Bien Vous Fasse, c'est une émission... c'est un truc qui te fait un peu déconnecter, mais en même temps, ça te parle des trucs de société, mais un peu positif. Dans des moments comme ça, ça fait plaisir. Puis il y a des trucs vachement... comme moi, je suis freelance, il y a vachement de trucs sur le freelancing, ça, mais les podcasts, oui. Moi, c'est ça qui m'a lancé ma boîte. Enfin, c'est un peu exagéré, mais quand j'étais salariée et que je me suis dit, mais attends, il faut que je monte ma boîte, je me suis dit, mais comment je vais trouver les vraies infos de vrais gens, tu vois, qui l'ont vraiment fait. Et en fait, bah, j'ai tapé freelance dans mes podcasts et j'ai trouvé une mine d'or, mais... Donc depuis, c'est des gens que je suis au quotidien et du coup que j'ai rencontré maintenant et tout. Et je me dis, mais sans ça, bah, en fait, j'aurais jamais eu la dose de confiance qu'il faut pour se dire, bah, vas-y, je quitte mon job de salarié et je monte ma boîte. Et donc, je pense que ouais, sur les podcasts, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je trouve ça super que maintenant, on se mette, tous, mais non. Mais dans l'écriture, il y a celui d'Arte aussi qui est un peu nouveau là.
Ah, je n'ai pas encore écouté.
Alors, c'est pour ceux qui m'écoutent là, c'est les Bookmakers. Et alors c'est un format qui est complètement différent de ce qu'on peut faire nous. C'est plutôt, tu vois, là, il y avait des épisodes avec Philippe Geneda et tout, où il raconte, bah, en fait, un peu sa vie d'écrivain, quoi. Comment il en est arrivé là, pourquoi il a fait ça, pourquoi. Voilà. Et je trouve ça c'est intéressant, tu vois. C'est pas le genre de podcast que ça dure longtemps, donc c'est pas le genre de podcast que t'écoutes comme ça. Faut un peu se concentrer de temps en temps, tu vois. Mm-hmm. Mais en même temps, bah, c'est un peu du divertissement. Donc, mais en tout cas, je recommande celui d'Arte, il est vachement bien.
Bah, j'irai écouter.
Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est juste bon. C'est vrai que les épisodes sont un peu longs, mais bon, ça t'en apprend quand même beaucoup, beaucoup sur l'auteur. Parce que c'est en 3 épisodes, en général, c'est bah, tu vois, ses méthodes d'écriture et tout. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont friands de ça. Par exemple, je sais que Christelle Le Bailly avait fait ça aussi, des vidéos sur, tu sais, les oui. Être dans la peau d'écrivain.
Oui, oui, oui. J'aime beaucoup.
Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Bah, on est tous un peu curieux de savoir. Donc du coup, c'est un peu la dernière partie que je voulais aborder avec toi. Quelle est pour toi la journée parfaite en écriture ? On a forcément tous un peu une méthodologie. Quelles sont les petites choses que tu mets en place pour avancer sereinement dans ton roman, tes petits trucs et astuces ?
Bah alors déjà, je suis une autrice architecte, donc j'ai besoin de tout planifier de A à Z dans mon roman. Donc je pense que avant de commencer un roman, déjà, ma routine, c'est de remplir des fiches, des grilles de scénarios, des fiches monde, des fiches personnages. Enfin, voilà. Il faut que j'ai vraiment tout de planifié, que je connaisse mes personnages par cœur et que j'ai des résumés de chapitres très précis.
Ouais.
Et donc, au moment de me mettre à écrire, bah, c'est simple. Ma musique, mon thé, mes lunettes, mon ordinateur et bah, mon plan. Et puis je me mets à écrire, quoi.
J'avais fait un épisode là-dessus, donc toi, t'es plutôt comme moi, t'es bulle créative.
Oui.
Je trouve ça intéressant parce qu'on se rend compte que déjà, il y en a beaucoup qui en ont eu. Et je sais pas, est-ce que ça te fait vraiment ça de dire, bah, en fait, quand tu réunis toutes ces petites choses-là, ton cerveau, c'est Pavlov, il comprend que c'est maintenant, faut écrire, quoi, tu vois.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça, mais dans n'importe quel endroit, parce que je peux très bien écrire dans un café, tant que j'ai ces éléments réunis, bah, ça me dérange pas.
Ouais, donc l'endroit importe pas vraiment.
Voilà, c'est ça.
Okay.
Tant que je suis bien installée, ça va.
Moi, c'est le train.
J'adore le train.
J'ai l'impression d'être un écrivain torturé. Ouais, donc là-dessus, t'es plutôt... Ouais. Moi aussi, je suis comme toi, je fais des plans. Mais je pense que je suis un peu entre le jardinier et l'architecte, tu vois. Parce que
paysagiste.
Pour le coup, ouais, je suis un peu paysagiste, ouais. C'est vrai que, tu vois, le chapitrage, moi, il date du début du roman, donc il y a un an. Et là, j'ai quasiment fini le roman. Mais c'est vrai que je l'ai suivi quand même, tu vois. Je l'ai suivi le plan, mais je me rends compte que c'est pas très précis, quoi. Il y a des fois où, comme tu vois, le chapitrage, il date d'il y a un an. Quand j'y retourne après une grande pause de genre, disons, 6 mois, je me retrouve là-dedans et je me dis, mais ok, enfin, donc elle fait ça, super. Et ensuite, du coup, il y a plein de... J'ai l'impression que c'est un plan à trous, quoi.
Oui.
Donc ensuite, je coche les cases, je fais semblant de savoir où je vais. Donc toi, t'es plutôt hyper précis. J'ai vu que t'avais fait un petit guide et tout, je trouve ça hyper intéressant.
Oui. Bah, en fait, j'en ai besoin parce que... Alors déjà, je pense que ça me rassure énormément par rapport à ma période de blocage d'écriture. Parce que comme ça, je sais que j'ai toujours quelque chose à écrire. Ce qui était une très grande peur pour moi bah, quand j'ai terminé le roman et quand je suis arrivée dans ma phase de page blanche, c'est que j'avais peur que l'écriture soit partie et qu'après Hémophélia, il n'y aurait plus rien. Mais alors, plus rien du tout. Et donc, le fait d'avoir un plan et de savoir où je vais, parce que donc, j'ai non seulement un plan par roman, mais j'ai aussi un document, un plan sur 5 ans avec ce que je dois écrire, ce que je dois faire, etc. J'ai besoin de m'organiser, quoi. Bah, pour te dire, j'ai des projets de romans, de recueils, etc. jusqu'à environ 2026.
Ah oui, donc tu vas être bien occupée, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, au niveau peur de ne plus avoir rien à écrire, ça va. Je suis plutôt rassurée. Mais oui, donc voilà, j'ai besoin d'avoir ce cadre. Et je trouvais ça important de le partager parce que c'est quelque chose que j'adore utiliser tous les jours. Et je n'avais pas envie de le garder pour moi. Alors, je l'ai remis un petit peu au goût du jour. J'ai ajouté des petits conseils d'écriture. Raison pour laquelle, du coup, je l'ai mis à 3 euros pour que ça puisse me rapporter quand même un petit quelque chose. Que je commence à avoir un petit peu de revenus parce que j'aimerais bien quitter au plus vite le travail dans lequel je suis actuellement.
Ouais.
Et donc ouais, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de partager ça parce que bah, c'est quand même quelque chose de très, très, très important pour moi. Donc voilà.
Ok. Et ton prochain projet, alors, du coup, c'est quoi, tu peux nous dire?
Bah alors, mon prochain projet, j'hésite encore. C'est, j'aimerais beaucoup, beaucoup, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, faire une réédition de mon premier roman.
Ok.
Et donc, du coup, pareil, jeter le premier à la poubelle.
Ouais, tout recommencer.
Et tout recommencer. Donc là, j'ai déjà commencé à plancher un peu sur des fiches personnages, retravailler le plan. J'ai d'ailleurs une intrigue qui m'a sauté aux yeux, alors que voilà, ça fait quand même 4 ans que le roman est sorti, qu'il a été écrit. Je pensais que je connaissais tout sur ce bouquin, et en fait, il y a des choses qui me sautent aux yeux aujourd'hui. Et je crois que c'est Margot qui dit ça, et j'aime beaucoup, beaucoup ça, elle m'en avait parlé. Elle a l'impression d'avoir un puzzle, et tout d'un coup, qu'il lui manquait une pièce, qu'elle s'est penchée en dessous de son lit, et qu'elle a trouvé la pièce manquante. Voilà, c'est, j'aime beaucoup.
Belle image. Coup,
je lui pique si jamais elle passe par là, excuse-moi. mais voilà, c'est ça, j'ai des choses qui me reviennent. Donc voilà, donc c'est soit ça, soit un projet de roman. En fait, pareil, j'ai l'idée depuis 4 ans. En général, mes idées, je les ai, et il faut que je les travaille plusieurs années avant d'arriver à quelque chose. C'est pour ça que je dis j'ai des projets jusqu'à 2026, c'est que je viens à peine d'avoir l'idée, mais je sais qu'il me faut du temps pour les travailler. Bref. Ah ouais.
Non mais là-dessus, c'est marrant parce qu'on n'est pas du tout tous pareils.
Oui. En fait, je considère un petit peu mes idées comme des graines. C'est-à-dire qu'il faut rassembler tout un tas d'éléments pour que la plante pousse. Et il ne faut pas que je la plante à n'importe quel moment de l'année. C'est-à-dire qu'il faut que j'apprenne un petit peu comment s'occuper de cette graine, comment la faire pousser, quelle terre il lui faut. Voilà. Et donc, j'ai besoin de prendre le temps. Voilà.
Ok. Ouais, c'est marrant, j'ai pas du tout, enfin, du coup, j'essaye de faire le parallèle avec ma propre expérience, mais en fait, je me rends compte que les choses que j'ai écrites, enfin, toutes les choses que j'ai écrites, c'était surtout, beaucoup dans l'instant, genre, j'allais pas dire dans l'urgence que c'est peut-être un peu trop, tu vois, mais par exemple, là, le prochain bouquin n'a absolument rien à voir. En ce moment, je suis en train d'écrire de la fantasy, d'ailleurs, un genre que je n'avais jamais expérimenté auparavant, donc du coup, en ce moment, je tente des choses. Et du coup, je vais arriver au bout d'un an d'écriture à la fin de ce bouquin. Et je me dis, en fait, le prochain, je sais que ça va être du contemporain, de l'épistolaire, enfin, tu vois, c'est un truc complètement différent. Et un peu dark, un peu. En fait, je pense que je vais revenir un peu à mes premiers amours, c'est-à-dire des trucs un petit peu glauques. Mais tu vois, je me rends compte que, j'ai déjà acheté le carnet pour ce bouquin. Je suis dans l'instant de me dire, j'ai vraiment très, très envie de commencer, donc il faut que je finisse celui d'avant, parce qu'il faut que je commence l'autre, tu vois. Et le roman jeunesse qui parle vraiment, c'était un truc sur les réseaux sociaux, sur le gaming, sur un peu la place de la femme, enfin de la jeune femme, tu vois, dans un monde comme les jeux vidéo qui n'était pas forcément prédestiné pour les nanas à la base, tu vois. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas. Mm-hmm. Et du coup, tu vois, ce truc-là, c'était très, dans l'air du temps. Dans mon air du temps, en tout cas. Je me suis dit, attends, mais là, ça me paraît évident d'écrire un truc comme ça. Donc, du coup, je l'avais écrit, mais c'est vrai que... Je sais pas, j'ai l'impression que toi, t'es beaucoup plus réfléchi dans tes idées, tu vois. Du coup, j'ai l'impression de me dire, allez, moi j'écris ça, go, c'est parti.
C'est surtout que je sais que, avec l'expérience, je me suis beaucoup précipitée dans ma vie et ça a jamais amené à quelque chose de bon. C'est-à-dire que je me suis précipitée pour s'en souvenir mon premier roman et au final, je suis pas fière aujourd'hui de ce que j'ai fait. Je me suis précipitée un petit peu pour Hémophélia, pour faire une version parfaite et ça a créé un blocage d'un an et demi. Donc je me force quand même un petit peu à prendre le temps. C'est pas quelque chose de naturel, c'est vrai que je commence en fait à me rendre compte que voilà, cette histoire de graines en fait elle est là depuis pas très très longtemps. Et c'est vrai que si je voulais, je me mettrais à écrire tous mes projets aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais je sais que ça amènerait pas quelque chose de dont je serais fière en fait.
Okay.
Et comme je suis très perfectionniste et je suis très souvent frappée par le syndrome de l'imposteur, tout ça. J'ai besoin de me mettre un cadre et de prendre le temps parce que je sais que ce sera bon pour moi au final. Voilà.
Ok. Et du coup, si tu avais... je finis sur ça en général, mais si tu avais un conseil à donner à ceux qui écoutent nos podcasts, donc au final des gens qui veulent écrire et je sais pas, qui se lancent en tout cas, qu'est-ce que ce serait ?
Un conseil pour ceux qui se lancent, c'est d'essayer et de ne pas avoir peur de tester plein de choses. Parce que l'écriture, ça s'apprend, mais ça ne s'apprend pas qu'avec des cours, ça s'apprend avec notre expérience, c'est ça. Et j'aime beaucoup utiliser des images pour l'écriture, mais je vois un peu l'écriture comme de la cuisine. Quand j'essaie de reproduire les recettes de ma maman ou de ma mamie, je n'ai pas forcément la recette exacte avec les ingrédients parfaits, donc je teste, je tâtonne, puis je goûte, et puis si ce n'est pas bon, je recommence. Donc,
et au pire, ça aura fait ta propre version de la recette.
Exactement, voilà. c'est soit c'est pas bon du tout et dans ce cas-là ben, je réessaye avec d'autres ingrédients, j'assaisonne un peu mieux, je mets un peu de poivre, un peu de, enfin voilà. Soit ça donne quelque chose de sympa, c'est pas du tout la même chose mais ben, c'est sympa, alors pourquoi pas. Et soit ben, c'est réussi et puis tant mieux quoi. Mais l'essentiel c'est de tester et de surtout pas se censurer et pas se brider parce que ben, encore une fois, enfin encore une fois, non je l'ai pas dit ici mais un premier jet, c'est de la pâte à modeler et... Bon, encore des images, excusez-moi.
On est peut-être de métaphore ce matin.
C'est ça, mais en fait, voilà, c'est jamais fixe. Et c'est vrai que c'est ce que je me suis dit très souvent quand j'étais dans mes débuts, dans l'écriture, c'est j'écris un truc et puis je pourrais plus repasser dessus. Mais en fait, si. Et même dans 5 ans, en fait, je pourrais repasser dessus, il n'y a aucun problème. Donc voilà, testez des trucs et puis amusez-vous, quoi.
Ouais, j'avoue que j'ai un peu la même vision. Enfin, j'avais un peu cette vision de quand j'écris un truc, c'est figé dans le marbre et c'est mort, tu vois. Mais, mais par contre, moi, j'ai encore du mal à repasser dessus, tu vois. Pas que je veuille pas changer les trucs qui vont pas, mais c'est vrai que j'ai du mal à. C'est un peu comme j'ai du mal à revoir un film que j'ai déjà vu ou à lire un livre que j'ai déjà lu. Alors, c'est pire, tu vois. Au bout de 15 pages, je me dis, mais attends, en fait, j'ai déjà lu. Et ouais, c'est un peu pareil quand je me. En plus, quand tu te relis 15 fois, bah, même 150 fois,
je comprends.
Tu vois. Bon, bah merci en tout cas. J'espère que ça pourra aider plein de gens. Ça fait 50 minutes, c'est un bon épisode, je trouve ça génial. Moi, avec les invités, je trouve ça trop cool. Donc, merci à toi.
J'ai pas vu le temps passer.
Merci à toi d'être venue dans le podcast.
Eh ben, merci, avec plaisir.
Et puis, si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils te retrouvent du coup ? Sur Instagram, plutôt ?
Plutôt sur Instagram, je suis vachement active sur Instagram. Donc, Justine Savie Auteur, tout attaché, avec un E à Auteur, et c'est un Y à Savie. Voilà.
D'accord. Alors, auteur, autrice, moi, je suis perdue. Hein.
Alors... Moi, je me dis autrice. Je sais pas, parce que ça s'est imposé à moi, mais sur les réseaux, c'est vrai que c'est plus joli à écrire auteur, eux. Voilà.
Et auteur sans eux ?
Auteur sans eux, non, parce que je suis une femme, donc du coup, je tiens au féminin.
Ok. Voilà. D'accord. Alors, on dira autrice, auteur, eux.
Si voilà.
Ça marche. Bon, bah merci beaucoup.
Merci à toi.
Et puis, bah, on se retrouvera sur Instagram, à mon avis.
Oui.
Voilà pour cette discussion avec Justine. J'espère que ça vous aura plu autant que moi. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à discuter avec elle. Vous pouvez bien sûr la retrouver donc sur Instagram, moi aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser une petite note au podcast sur votre plateforme d'écoute pour lui donner plus d'ampleur et à le partager. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature. D'ici là, prenez soin de vous et de vos projets.